Deuxième partie, nous retrouvons Benjamin Whitmer, interviewé à Quai du Polar.
Et pour en revenir au mot rédemption, finalement, c'est vrai de Wendy, dans Pike, c'est vrai des enfants qu'on rencontre dans Cry Favor, c'est peut-être là la rédemption de tout être humain, c'est la filiation et la mémoire qu'on peut mettre, la mémoire de nos pères, comme on dit.
That's exactly what I meant about constructing that narrative. I mean, that's what the characters are trying to do, and I think that it is, at least for me as a parent, that is my only possible redemption, is to leave my kids with something, hopefully, that they can use.
Oui, c'est exactement ce que je voulais dire lorsque je parlais de la construction d'un récit, lorsque je raconte ma vie à mes enfants. La seule chose que je peux espérer leur laisser, c'est finalement une histoire et quelque chose qu'ils pourront utiliser plus tard.
Et c'est pour ça que dans les dernières pages, vous parlez de ce trou immense, parce que s'il y a disparition, il y a un vide qu'on ne peut jamais, jamais combler. Il y a des phrases magnifiques sur l'absence.
That is, I mean, that's the kind of the theme of both books. I mean, Pike, they talk about it too, and then Cry Father, it's the same thing. And it goes back to the idea of closure of redemption. I don't believe that loss can be filled, and I think when it is filled, it's usually filled in the wrong ways. For instance, in the conspiracy theories in Cry Father, those are people trying to fill gaps in historical knowledge and doing it in ways that make no sense, that lead to false narratives.
Oui, c'est le thème que j'ai développé dans Pike, comme dans Cry Father. Je crois que lorsqu'une personne disparaît, ça laisse un grand vide, et que c'est un vide qui ne peut pas être comblé, et que lorsqu'il est comblé, il ne peut être comblé que par des aberrations ou des choses irréalistes. C'est pour ça que, par exemple, il y a énormément de théories de conspirationnistes aux États-Unis qui sont une mauvaise réponse apportée à un manque de connaissances, à un manque de mise en perspective de l'histoire, parce que les gens ne savent pas ce qui se passe. Ils vont remplir ce vide avec ces théories absurdes.
Vous montrez très bien ça, avec en particulier cette espèce, c'est pas vraiment un prédicateur, mais il y a une émission de radio où il y a justement ces gens qui racontent absolument n'importe quoi, des théories complètement fumeuses, et on a l'impression que par ignorance, aux États-Unis, mais c'est peut-être certainement vrai en France aussi, il y a beaucoup de gens qui arrivent à des choses tragiques simplement par l'ignorance. C'est important, la connaissance.
I feel like knowledge is important, but in the context of my country, it's nearly impossible. When you don't live in New York or LA, you're constantly separated from the centers of power, and you feel nearly abandoned by them. So whenever you're told anything by the government, you usually assume it's a lie, and about 75% of the time it is. For instance, when we're running up to a war or something. If you don't have the historical context to understand why those lies are being told, you invent connections where there are none. But the problem with living in that sort of context is you never know when you're being lied to.
Oui, bien sûr, la connaissance est très importante, mais la difficulté qu'on a aux États-Unis, c'est que lorsqu'on ne vit pas près des centres de pouvoir que sont New York et Los Angeles, on ne sait pas ce qui se passe réellement. Et lorsqu'on apprend quelque chose qui nous est dit par notre gouvernement, on présume que ce sont des mensonges, et on a raison dans 75% des cas, comme par exemple lorsqu'on part en guerre en Irak, et donc on a besoin de connaissances historique, de mise en perspective pour démonter les mensonges du gouvernement.
Et c'est ce qui manque justement à ces personnages.
Which is what these characters can't have.
Et dans ce livre, il y a aussi des scènes, alors c'est peut-être ma vision de petite française qui connaît très mal les États-Unis, mais il y a des scènes de western, il y a des scènes comme dans des scènes de films mythiques. avec, western ou pas d'ailleurs, mais des grands films américains où il y a le type dans la voiture avec la bière à côté, ou deux personnages qui parlent devant un perron. C'est des scènes très cinématographiques. C'est important, le cinéma, ou c'est des choses qui... des images fixes.
For this book, Cry Father, one of the jokes I would tell people who knew me was that I was writing the world's worst Sam Peckinpah flick. I had Sam Peckinpah in the back of my mind. I love Western movies. So I love the mythology of the West. I know it's nonsense, and I still love it. I hate it too.
Lorsque j'écrivais ce livre, la plaisanterie que je faisais aux gens qui me connaissaient, à mes amis, c'était de leur dire que j'étais en train d'écrire le plus mauvais navet à la Sam Peckinpah. Et j'adore Sam Peckinpah, c'est un réalisateur préféré. J'adore les films de westerns, ce genre de films. Je sais qu'ils ne correspondent à rien de réel, et pourtant je ne peux pas m'empêcher de les aimer, donc oui, c'est important.
Alors la dernière question, parce qu'on arrive au terme de notre émission, on a l'impression que vous êtes arrivé dans le genre noir, vous êtes publié en France, alors peut-être pas aux États-Unis, mais en France dans une collection donc néo-noir, et avant chez Gallmeister c'est aussi beaucoup de noir, mais finalement que d'écrire du noir, c'est pas un choix, c'est une fatalité.
When I wrote Pike, I thought I was writing a literary novel. I just happened to like guns and deeply flawed characters. So I sent it to my agent, and he told me it's noir. I said, okay. So then I sat down to write Cry Father and tried to write a noir novel, and in America, it's published as literature. So I give up.
Lorsque j'ai écrit Pike, j'avais le sentiment d'écrire un roman, comme on les appelle aux États-Unis, un roman littéraire. Et lorsque je l'ai envoyé à mon agent, comme il y a des flingues et que les personnages sont remplis de failles, on m'a dit « mais c'est un roman noir ». Donc je dis « bon, ben, ok ». Et lorsque j'ai écrit Cry Father, j'avais le sentiment d'écrire un roman noir. Et là, mon agent me dit « ah non, mais ça, c'est un livre littéraire, et c'était publié dans une collection littéraire ». Alors, je ne me pose plus la question, j'ai abandonné.
Vous écrivez. Et vous écrivez fort bien. Et ce qu'on a oublié de citer, donc Benjamin Whitmer, merci beaucoup. Oliver Gallmeister, traducteur pour l'occasion, mais surtout éditeur. Et on va citer Jacques Maillot, qui a fait un travail de traduction exceptionnel. Si on trouve ce bouquin absolument formidable, c'est parce que Jacques Maillot a su pénétrer dans votre univers et le retranscrire très très bien en français. Donc merci à vous deux et on salue Jacques Maillot. Merci beaucoup. Ainsi pris fin, notre entretien avec cet homme tout à fait charmant et cet écrivain remarquable. Oui, je sais, on l'a déjà dit dans l'interview, mais ça ne fait pas de mal si on le redit. Et tu avais commencé à nous dévoiler les secrets de nos choix musicaux du soir, donc tu vas continuer avec le deuxième morceau.
Si vous avez bien entendu, ça sera de la country, parce que Benjamin Whitmer adore la country, moi aussi d'ailleurs. Et donc, il me disait que pour tout le monde, il y a deux personnes célèbres avec les initiales JC.
JC.
Voilà, et donc il dit, mais pour moi, le seul, c'est Johnny Cash.
On vous laissera deviner quel est l'autre, bien évidemment.
Voilà.
Donc le morceau qu'on va écouter.
On va écouter un morceau de Johnny Cash qui s'appelle Trouble in Mind, qui était paru dans les derniers albums qu'il a fait avant de nous quitter, et une production de Rick Rubin. Trouble in Mind.
Trouble in mind, I'm blue, but I won't be blue always, 'cause the sun's gonna shine round my back door someday. I'm going down to the river, I'm gonna take me a rocking chair, and if the blues don't leave me, I'll rock on away from here. Trouble in mind, I'm blue, but I won't be blue always, 'cause the sun's gonna shine in my back door someday. trouble in mind, that's true. I have almost lost my mind. Life ain't worth living, I feel like I could die. Trouble in mind, I'm blue. My poor heart is healing slow. I never had such trouble in my whole life before. Gonna lay my head on some lonesome railroad line and let that 219 special ease my troubled mind. Trouble in mind, I'm blue, but I won't be blue always, 'cause the sun's gonna shine in my back door someday.
Voilà, donc c'était JC, alias Johnny Cash. Et ben, finalement, le livre dont tu vas nous parler, c'est un écrivain français qui l'a écrit, mais...
Ça pourrait très bien être, effectivement, d'ambiance country. Donc, c'est un roman de Frank Bouys qui s'appelle Pur Sang, qui est paru aux éditions L'Écorce dans la collection Territory, et qui vaut 10 euros. Nous avions déjà parlé avec Jean-Marc du roman Grossir le ciel, le dernier roman en date de Frank Bouys. Nous l'avons aussi chroniqué dans le tout nouveau Carnet de la Noiraude.
Qui vient de sortir.
Que j'engage à découvrir. Toutes les infos sont sur notre site lanoiraude.com. On avait évoqué à propos de Frank Bouys le nature writing, ou ses romans ou romans noirs des grands espaces. Grossir le ciel se déroulait, c'est le précédent donc, se déroulait dans les Cévennes, notre Wyoming à nous en quelque sorte.
Oui, mais vraiment micro Wyoming.
Voilà,
hein.
Petit Wyoming,
c'est mignon.
Pur Sang, son roman précédent, celui dont je vais vous parler ce soir, lui, commence à Eden Creek, dans le Montana, parmi les Indiens de la tribu des Nez Percés, du moins les rescapés, parce qu'ils ont subi pas mal de dégâts déconvenus, si j'ose dire. Elias, c'est le héros, Elias Greenhill, vit paisiblement, donc à Eden Creek, avec maman et papa Tulsa, ses parents adoptifs. Quels parents adoptifs ne vont pas tarder à rejoindre la terre et les cendres de leurs ancêtres? Non, sans avoir révélé au jeune Elias, juste avant de mourir, que ses parents, ses vrais parents, n'étaient pas indiens, mais venus de France, où ils sont retournés. Désemparé, Elias va tenter de combler le vide soudain de son existence en s'efforçant de retrouver leurs traces. Il se rend donc en France, près de Limoges. Limoges, c'est d'ailleurs le pays d'où est originaire... Frank Bouys, et il connaît très bien donc la région.
Et la porcelaine? Non, c'est bête.
Non, pas du tout. Et c'est en pleine campagne, donc pas de porcelaine, au lieu dit la Croix du Loup. Ça va peut-être avoir une petite importance. Et ça va être une enquête, une quête qui va bouleverser la vie d'Elias. Alors il aura l'aide d'un fermier écossais, exilé en France, solitaire comme un vieux sanglier, mais pourtant assez bien implanté dans la région. Ça va l'aider surtout pour la langue, parce qu'un Indien, il ne parle que l'anglais
Oui, ce n'est pas comme certaines productions hollywoodiennes ou...
Voilà, dans la région de Limoges, en anglais, ça n'aurait pas été terrible. Et on va se rendre compte que la véritable nature d'un homme dépend probablement moins de ses ascendants que de l'environnement et des gens qui l'ont aidé à se bâtir, à se construire. C'est une superbe narration, quelques flashbacks, quelques retours vers le Montana. Une écriture qui se tient au plus près des gens, et pourtant qui parle en permanence de la nature. On sait que les Indiens sont très attachés à la terre, à l'air, aux éléments. Un loup, une pierre, une herbe ont tout autant d'importance que l'humain qui les côtoie. Et Frambuis nous fait parfaitement ressentir ses sentiments, même à nous, purs citadins d'asphalte, de gaz d'échappement et de stress. Il sait trouver les mots justes, précis, parfois, souvent même poétiques, quand ils chevauchent leur monture, que ce soit sur les bords de la Walloa River, quand ils sont dans le Montana, ou dans les forêts limoujaudes, ou quand ils observent un loup tapis dans l'herbe. C'est eux qui sont tapis dans l'herbe, le loup aussi d'ailleurs, et ils se regardent. Il y a des très très magnifiques scènes. Ou alors qu'ils dégustent simplement un café arrosé devant la vieille cuisinière à bois de la ferme. Il réussit aussi à donner à certains de ses personnages, et donc essentiellement Elias et l'Écossais, une très belle âme, malgré, ou peut-être grâce d'ailleurs, à leur fêlure et à leur désarroi. Il y a aussi de très belles réflexions sur la destinée, au travers par exemple d'une phrase de Papa Tulsa, qui dit à son fils adoptif Elias, « Un homme s'est fait pour marcher en avant, fils, à son rythme, mais pas pour reculer, c'est fait pour ça un homme. » On pourrait rajouter que c'est parfois pas toujours facile.
C'est sûr, mais quand on a des beaux livres comme ça,
voilà,
déjà...
Voilà, donc c'est comme ça que je pensais conclure que Frambuis est indubitablement un écrivain à lire et à suivre.
En avant, toujours en avant.
Toujours en avant, exactement.
Voilà.
Bon, ceci dit, on peut lire ses livres précédents. Il y en a encore un autre dans la même collection qui s'appelle Vagabond, que je n'ai pas encore lu, mais dont on vous parlera peut-être à l'occasion.
Voilà, et je tiens à signaler la très belle couverture, très beau travail de Charles Graffrick de ce territory, de cette collection territory.
Qui va d'ailleurs intégrer à partir du mois de juin, qui va devenir une collection, une sous-collection de la manufacture des livres, dans laquelle est publié le dernier
Grossier
roman,
le ciel.
Grossier le ciel, de Frambuis.
Et voilà, on a bouclé la boucle tout en marchant en avant, donc tout va bien. Ouais. Donc on va vous dire à bientôt, avec chacun un bon bouquin dans son coin.
Et un peu de musique country.
Voilà. Un peu.
Au revoir.
Au revoir.
Back in my memory, special little place where a country boy stands with a smile on his face, watching all the people in the passenger car, wondering if he'd ever get a chance to go that far. Sunbeam special, screaming round the bend, waking up memories of my childhood again, taking me to places I never have been. Sunbeam special, run a hole in the wind. Higginbotham's dog would go to chasing its tail, yipping and barking, raising all kinds of hell. Good God Almighty, Katie bar the door, rattled all the windows, shook the hell out of the floor. Sunbeam special, screaming around.